Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 4 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont été tuées dans deux attaques de djihadistes présumés. Soulagement à Bamako, au Mali, après la levée des sanctions de la CEDEAO. En Libye, vive contestation contre les coupures d'électricité et l'impasse politique. Les États-Unis célèbrent aujourd'hui le 246e anniversaire de leur indépendance. Le président russe Vladimir Poutine ordonne la poursuite des combats en Ukraine alors qu'une conférence sur la reconstruction de ce pays a débuté en Suisse. Ne manque pas dans cette session d'information la Minute Éco et l'Export, mais tout d'abord le journal. Au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont été tuées au cours du week-end lors de deux attaques distinctes de djihadistes présumés dans le nord et le nord-ouest du pays. Yacouba Ouedraogo.
D'après une source sécuritaire, la nuit dernière, des individus armés ont attaqué les populations civiles de Bourasso dans le nord-ouest. Une quinzaine de personnes ont été tuées selon cette source sécuritaire, une vingtaine selon une source locale. Cette dernière explique que des individus armés ont d'abord fait un tour aux environs de 17h, heure locale, dans le village, tirant des coups de feu en l'air, avant de revenir plus tard dans la nuit pour ouvrir le feu aveuglément sur les populations. Samedi, une autre attaque meurtrière a eu lieu à Namisigma, dans le nord, selon une autre source sécuritaire qui parle de 12 morts, dont 3 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils qui combattent aux côtés de l'armée. Cette source fait aussi état de vagues de déplacement de population depuis dimanche. En renversant le président Roch Kabore fin janvier, accusé d'être incapable d'enrayer la violence djihadiste, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a fait du rétablissement de la sécurité sa priorité. Mais le pays est toujours souvent visé par des attaques meurtrières.
Les dirigeants ouest-africains ont levé dimanche les sanctions économiques et financières pesant sur le Mali en réponse aux propositions des dirigeants militaires en place d'assurer une transition vers la démocratie en 24 mois. Les sanctions avaient été mises en place en janvier lorsque la junte a annoncé ne pas vouloir organiser d'élections démocratiques le mois suivant comme initialement prévu. Nous reviendrons sur les réactions aux décisions de la CEDEAO dans la partie magazine de cette édition. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le pays depuis le putsch du 25 octobre, a annoncé aujourd'hui vouloir laisser la place à un gouvernement civil au cinquième jour de sit-in décidé à en finir avec le pouvoir militaire et sa répression sanglante. Dans une allocution télévisée, le chef de l'armée et numéro un du Conseil souverain, plus haute autorité du pays, a annoncé que l'armée ne participera plus au dialogue national lancé sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine, notamment pour laisser les forces civiles former, je cite, un gouvernement de personnalité compétente. Les dirigeants rivaux en Libye se trouvent depuis 3 jours sous une pression croissante de la rue. Une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui à Tripoli contre les coupures de courant chroniques et l'impasse politique. Des protestataires ont saccagé et brûlé vendredi le siège du Parlement. Éric Manirakiza.
Des jeunes, pour la plupart en cagoulé, ont brûlé des pneus et fermé plusieurs routes, notamment la ceinture périphérique de la capitale et la route côtière qui relie Tripoli à ses banlieues ouest. Des rassemblements ont également eu lieu dans les villes de Beni Walid et Misrata, dans l'ouest du pays, selon des images diffusées par les médias locaux. Outre les coupures chroniques de courant, les contestataires dénoncent la détérioration des conditions de vie dans le pays, dont l'inflation et les interminables files d'attente devant les stations d'essence. Dans la nuit de dimanche à lundi, des rassemblements épars ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale. Vendredi à Tobrouk, dans l'extrême est du pays, des manifestants ont forcé l'entrée du Parlement à l'aide d'un bulldozer avant d'y mettre le feu. Dans une apparente tentative d'apaiser la rue, le gouvernement de Tripoli a essentiellement consacré sa réunion hebdomadaire lundi au problème des coupures électriques. Le premier ministre Abdelhamid Beiba a pour sa part reconnu que l'exécutif les avait sous-estimés.
Les forces de défense et de sécurité ont voté ce lundi par anticipation au Congo-Brazzaville pour les élections locales et législatives. Le reste de la population est attendu aux urnes le 10 juillet pour élire 151 députés devant siéger à l'Assemblée nationale et plusieurs listes de conseillers locaux. En RDC voisine, on vient de déclarer la fin de la 14e épidémie d'Ebola qui avait commencé il y a moins de 3 mois dans le nord-ouest du pays, a annoncé le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Un total de 2104 personnes ont été vaccinées durant l'épidémie qui vient de prendre fin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains célèbrent leur fête nationale ce 4 juillet, 246e anniversaire de la déclaration d'indépendance et de la fin de la domination anglaise. Beaucoup prennent part à des barbecues, défilés et feux d'artifice sur fond de polarisation de la vie politique. Nani Talani.
Aujourd'hui, des millions d'Américains retrouvent leurs proches autour de grillades pour célébrer le 4 juillet. D'autres assistent à des matchs de baseball en agitant des drapeaux rouges, blancs et bleus. Des feux d'artifice sont prévus ce soir, dans de nombreux cas, pour la première fois en 3 ans, à cause du COVID-19. De New York à Seattle, de Chicago à Dallas, en passant par Washington DC, ces festivités illumineront le ciel nocturne. Certains nouveaux habitants prêteront serment de citoyenneté, se qualifiant ainsi pour voter pour la première fois lors des prochaines élections de mi-mandat. La fête nationale américaine a lieu cette année à un moment où les États-Unis sont bouleversés par les audiences sur l'insurrection du 6 janvier. Le pays est également submergé par les décisions de la Haute Cour sur l'avortement et les armes à feu. Toutefois, pour beaucoup, comme le rappelle la presse américaine, le 4 juillet, c'est aussi l'occasion de mettre de côté les divergences politiques et de célébrer l'unité en réfléchissant à la révolution qui a donné naissance à la démocratie la plus ancienne de l'histoire. Cette démocratie née le 4 juillet 1776, quand les délégués des 13 colonies adoptaient officiellement la déclaration d'indépendance et mettaient fin à la domination britannique.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine après avoir conquis l'intégralité de la région de Louhansk. Ceci alors qu'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine se tient en Suisse. Abdourahman Dia.
La conférence internationale a pour but de préparer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. La Banque européenne d'investissement doit proposer la création d'un nouveau fonds pour l'Ukraine qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros. S'exprimant par visioconférence, le président Volodymyr Zelensky a dit que la reconstruction de l'Ukraine est la contribution la plus importante à la paix dans le monde. Mais sur le terrain, notamment dans l'Est, la situation est loin d'être favorable à Kiev. Après avoir conquis hier la ville stratégique de Lysychensk, les forces russes ont reçu l'ordre de poursuivre leur offensive. Cette prise parachève le contrôle de la région de Lugansk par les forces russes et les séparatistes soutenus par Moscou. Les forces russes doivent mener à bien leur mission selon les plans déjà approuvés, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, retransmis à la télévision. La région de Lugansk et celle voisine de Donetsk forment le Donbass, bassin minier de l'est de l'Ukraine que les forces de Moscou entendent conquérir dans son intégralité. L'objectif des forces ukrainiennes est de ralentir la progression russe dans cette partie du pays.
L'Union européenne va créer une structure chargée de coordonner les efforts de reconstruction de l'Ukraine après la guerre avec la Russie, a annoncé aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, a déclaré de son côté que son pays aurait besoin de 750 milliards de dollars pour mener à bien sa reconstruction, précisant que les dégâts directs causés aux infrastructures ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe étaient chiffrés à plus de 100 milliards de dollars. Les 30 pays membres de l'OTAN vont lancer demain mardi le processus de ratification pour les adhésions de la Suède et de la Finlande, une décision historique pour les deux pays nordiques dictée par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et puis au Danemark, l'auteur présumé de la tuerie dans un centre commercial de Copenhague a été placé en détention en psychiatrie ce lundi et la santé mentale du tireur de 22 ans est désormais au cœur de l'enquête. L'attaque commise principalement avec un fusil a fait 3 morts et 30 blessés, dont 4 graves, dans un grand centre commercial, Fields, situé entre le centre de Copenhague et l'aéroport de la capitale. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
La Centrafrique a lancé officiellement le chantier de sa propre crypto-monnaie, le Sango, et du futur premier crypto-hub africain à fiscalité nulle. Pour le moment, on ne connaît aucun détail concret sur les modalités et le calendrier de la création de ce Sango Coin. Cette devise virtuelle que la RCA a adoptée fin avril devait devenir le catalyseur de la tokenisation ou la sécurisation des vastes ressources naturelles du pays. Le canal de Suez en Égypte annonce un bénéfice record de 7 milliards de dollars sur l'exercice 2021-2022 après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial. Entre juillet 2021 et juin 2022, quelque 1,32 milliard de tonnes de marchandises ont transité par le canal. C'est une augmentation de 20,7% par rapport à l'exercice financier précédent et la rente la plus élevée de l'histoire du canal de Suez.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAF lance une Super Ligue africaine.
Oui, et ce sera dès août 2023. D'après la Confédération africaine de football, cette Super Ligue africaine sera dotée de 100 millions de dollars. Une partie importante de l'argent de la Super Ligue de la CAF sera réinvestie dans le football africain. Une partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse, précise le président de la CAF, Patrice Motsepe, dans le communiqué. Les détails de cette nouvelle compétition seront dévoilés le mois prochain lors d'une cérémonie de lancement organisée en Tanzanie, indique le communiqué de la CAF.
La CAN Côte d'Ivoire 2023 décalée en 2024.
Initialement programmée en juin-juillet 2023 en Côte d'Ivoire, cette 34e édition de la CAN a été déplacée à janvier-février 2024 pour des raisons climatiques, selon le président de la CAF, Patrice Motsepe. Pas étonnant, d'après Adou Mel, chroniqueur sportif joint à Abidjan.
Ce report était prévisible. Nous étions à la CAN au Cameroun en 2021, mais qui s'est joué en 2022. Déjà, au sortir des réunions de la CAF, le sujet était en l'air par rapport au report. Personnellement, je ne suis nullement surpris. C'était prévisible, comme on peut le dire, parce qu'à cette période, il pleut beaucoup et il y a des dégâts. Je ne pense pas qu'une compétition d'envergure de la CAN puisse se jouer à partir du mois de juin. Je vous assure qu'une seule journée de pluie à Abidjan peut gâcher totalement la fête.
Adou Mel, chroniqueur sportif à Abidjan.
Pendant ce temps, la CAN féminine se poursuit au Maroc.
Entrée en lice ce lundi des équipes du groupe C et au programme un alléchant Nigeria-Afrique du Sud et Burundi-Botswana. Début raté hier pour le Cameroun, finaliste de la dernière édition, accroché par la Zambie 0-0. C'est la Tunisie qui prend seule la tête de ce groupe B après avoir dominé le Togo 4-1. Dans la poule A, le Sénégal partage la première place avec le Maroc suite à son succès 2-0 face à l'Ouganda. En ouverture samedi, en effet, le pays hôte a assuré l'essentiel devant le Burkina Faso battu 1-0. Les étalons d'âme doivent réagir demain, mardi, face au Sénégal.
Des nouvelles de transfert en football.
Franck Kessier s'engage avec le FC Barcelone. Le club catalan annonce l'arrivée pour 4 ans du milieu de terrain ivoirien qui était en fin de contrat avec l'AC Milan. Il sera officiellement présenté mercredi. Âgé de 25 ans, Franck Kessier a passé les 5 dernières saisons au Milan, sacré l'an passé champion d'Italie pour la première fois depuis 2011. Formé au Stella d'Adjamé, club d'Abidjan, il est aussi passé par l'Atalanta Bergame et Cesena avant d'arriver en 2017 en prêt à l'AC Milan et d'y signer définitivement en 2019. De son côté, l'international égyptien Mahmoud Hassan, surnommé Trezeguet, s'est aussi engagé pour 4 saisons avec le champion de Turquie, Trabzonspor. L'ailier gauche de 27 ans a disputé une partie de la saison dernière en Turquie avec le Başakşehir Istanbul rejoint en février. Trezeguet avait déjà joué en première division turque entre 2017 et 2019 avec un autre club d'Istanbul, Kasım Pasa.
Page des sports, VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La CEDEAO a enfin levé les sanctions hier dimanche 3 juillet contre le Mali. Cette décision, malgré les réserves qu'elle comporte, est saluée par les populations qui n'en pouvaient plus de vivre les conséquences de ces sanctions. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko à Bamako.
La levée de ces sanctions est une excellente nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il faut noter qu'au niveau de la CEMAS, nous n'avons jamais cessé de rappeler les autorités en leur demandant de tout mettre en œuvre pour la levée de ces sanctions, parce que c'est le peuple malien qui souffrait le martyr, c'est le peuple malien qui a souffert le martyr dans tout ça. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et donc nous osons espérer qu'après la levée de ces sanctions, les autorités de la transition vont s'atteler pour faire face aux vrais défis, notamment le défi de la sécurité.
Et cet embargo instauré au Mali depuis le 9 janvier est un énorme gâchis. C'est la matérialisation de l'incompétence du gouvernement malien. C'est aussi simple que ça. Et on n'aurait pas dû rester sous embargo pendant 6 mois pour avoir un chronogramme, avoir une loi électorale et être en paix et en convivialité avec nos voisins.
Le cas du Mali, c'est un cas exceptionnel. Certes, on parle de coup d'État qui est quelque chose proscrit, interdit dans la zone CEDEAO, mais ça trouvait qu'on était dans une insécurité grandissante qui fait qu'il faudrait que les autorités soient responsables, soient vraiment des patriotes pour pouvoir changer même la mentalité des Maliens.
Je lance un appel aux dirigeants de la CEDEAO pour qu'ils comprennent que nous ne pourrons jamais être forts que si nous sommes unis.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La CEDEAO a donc levé les sanctions commerciales et financières contre le Mali en vigueur depuis le mois de janvier. Même si les sanctions individuelles et administratives restent maintenues, les deux parties se sont entendues sur un calendrier électoral qui permet à la transition de se poursuivre jusqu'en 2024. Toutefois, l'organisation régionale exclut la participation des militaires à la prochaine présidentielle. Pour une analyse, Abdourahmane Dia, adjoint à Lomé, le journaliste et analyste politique Louis Magloire Kemayou.
Je considère que la CEDEAO, en levant les sanctions contre le pays, a simplement appliqué le bon sens, parce que ça n'a aucun sens de condamner tout un peuple parce qu'il y a eu un coup d'État. Tout le monde n'a pas soutenu le coup d'État. Et si on avait raisonné ainsi concernant l'Ukraine, au moment où elle a été envahie par la Russie, il n'y aurait pas eu d'intervention. Donc je crois que ces sanctions étaient impopulaires, aussi bien au Mali qu'au sein de la CEDEAO, et je crois surtout qu'elles, même si elles étaient dans la droite ligne des conventions qui liguent les différents pays de la CEDEAO, elles étaient beaucoup trop dogmatiques pour apporter un résultat concret. La preuve, les militaires n'ont pas bougé d'un iota, et c'est la date qu'ils ont proposée qui a été retenue. Par ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de chefs d'État, notamment celui du Togo, qui ont apporté leur médiation pour faciliter les échanges qui semblaient bloqués entre la CEDEAO et le Mali. Donc quelque part, même s'il y a eu du dogmatisme, le pragmatisme a fini par l'emporter.
Donc vous pensez que les chefs d'État ont un peu répondu ou fléchi en tout cas face aux opinions publiques dans l'espace CEDEAO?
Oui, parce que les sanctions, c'est un peu comme, encore une fois, je reprends l'image de la Russie et de l'Ukraine, les sanctions qui ont été appliquées contre la Russie pénalisent les autres pays. Et au niveau du Mali, les sanctions qui ont été appliquées au Mali ont pénalisé d'autres pays de la CEDEAO dans un contexte social et économique très difficile. Et je pense que cela devenait intenable pour la plupart des pays, et ça devenait même invivable par rapport aux règles de fonctionnement des institutions au sein de la CEDEAO. Donc je crois que quelque part, il n'y avait pas le choix que de lever ces sanctions et de trouver des solutions qui permettraient de reprendre progressivement un fonctionnement normal au sein de la CEDEAO en marginalisant au moins les peuples de l'organisation.
Et où est-ce qu'on va maintenant? On sait que la CEDEAO reste intransigeante sur une éventuelle présentation des militaires à l'élection présidentielle.
Oui, c'est-à-dire que l'horizon de 2 ans qui a été fixé semble raisonnable, mais c'est un horizon. Je me demande si en 2 ans, ils arriveront à reconquérir les 2/3 du territoire qui restent occupés, parce que l'enjeu, par-dessus tout, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les Maliens arrivent à se prononcer lors des élections. Ce n'est pas juste de tenir des élections pour passer la main aux civils.
C'était l'analyste politique Louis Magloire Kemayou.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la levée des sanctions économiques et commerciales contre le Mali. Après des mois de bras de fer, la CEDEAO et Bamako s'accordent sur un calendrier électoral permettant à la transition de se poursuivre jusqu'à février 2024. Même si les sanctions individuelles et la suspension du Mali sont maintenues, beaucoup voient un dégel dans les conclusions du sommet d'Accra. Quelles leçons tirées de la gestion des coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina par la CEDEAO? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Ici aux États-Unis, des changements sont attendus dans la façon dont le pays traite les migrants le long de sa frontière sud. La Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Biden, mettant fin à une politique de l'ère Trump qui obligeait les migrants à attendre en territoire mexicain leur date de passage devant les services américains de l'immigration. La semaine dernière, plus de 50 migrants sont morts dans un camion remorque abandonné au Texas. Reportage Arash Arabasadi, récit Yacouba Ouedraogo.
La semaine dernière, à San Antonio, au Texas, un employé de la ville a alerté les forces de l'ordre sur ce qui allait devenir l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire des personnes entrant aux États-Unis. Les autorités fédérales ont inculpé 4 hommes dans l'opération de contrebande meurtrière où les migrants entassés dans une remorque n'avaient ni eau ni climatisation lorsque le chauffeur les a abandonnés avant de s'enfuir. Cela est survenu la même semaine où la Cour suprême des États-Unis s'est prononcé contre des protocoles de protection de migrants ou MPP, une politique de l'ère Trump communément appelée « rester au Mexique ». L'annulation de cette décision est une victoire pour le président Joe Biden. Elle met fin à une politique qui a forcé des milliers de migrants à rester au Mexique en attendant que les tribunaux américains traitent leurs demandes d'asile. Cela conduit souvent les migrants à prendre des mesures extrêmes pour atteindre le sol américain. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour suprême soutenant notre engagement à mettre fin au programme Rester au Mexique, qui présente des défauts endémiques et provoque une tragédie humaine injustifiable. Nous devons attendre que la décision de la Cour suprême soit effectivement communiquée aux tribunaux de première instance.
Selon Mayorkas, ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. La décision intervient alors que cette année, des centaines de milliers de migrants ont cherché à entrer aux États-Unis par leur frontière sud. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait savoir que les forces de l'ordre de l'État augmenteraient les points de contrôle des camions pour éviter une tragédie comme celle de San Antonio. Il ajoute que l'administration Biden en est responsable. Many of these deaths
could be prevented. Beaucoup de ces décès pouvaient être évités si Biden finançait entièrement l'opération de patrouille frontalière des États-Unis et mettait en œuvre les politiques dont la patrouille frontalière a besoin pour faire son travail. Ce travail n'est pas celui du traitement de dossiers qui leur a été attribué. Le travail consiste à la fois à sécuriser la frontière et à faire des choses comme inspecter le véhicule qui transportait ces personnes ayant perdu la vie.
Alors que la politique « Rester au Mexique » va bientôt prendre fin, une autre politique controversée de l'ère Trump reste en vigueur. Il s'agit de la mesure de santé publique prise en réponse à la pandémie de coronavirus qui a empêché de nombreux migrants d'entrer aux États-Unis. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé son intention de rencontrer le président Biden le 12 juillet pour discuter de la migration.
À l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée ce 4 juillet aux États-Unis, une cérémonie spéciale de naturalisation s'est tenue le 1er juillet dans la nouvelle aile de la bibliothèque de New York. 40 immigrants issus de 22 pays ont prêté serment pour devenir des citoyens américains et défendre les valeurs des États-Unis. À New York, Dilly Dico s'est entretenu avec ces nouveaux Américains. Reportage.
Pour ces 40 immigrants, cette journée restera gravée dans la mémoire. Il s'agit du jour où ils sont devenus des citoyens américains. Ces hommes et ces femmes sont issus de 22 pays des quatre coins du monde. Le Cameroun, la Chine, la Colombie, mais aussi la France, le Nigeria et l'Ukraine, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi eux, 15 soldats de l'armée américaine. Des personnes qui, bien avant de devenir citoyens de ce pays, ont décidé de servir les États-Unis de la manière la plus dévouée possible. Abdraman Keïta, un soldat de première classe, est d'origine malienne. Il se dit très fier de devenir américain.
Ce jour est un grand jour pour moi. Je ne pense même pas s'il y a des mots pour expliquer les joies que j'ai aujourd'hui. Parce que devenir citoyen américain, ça t'ouvre pas mal de portes. Et le fait même pour moi de joindre l'armée américaine, ce pays a beaucoup de valeurs que moi je pense que tout citoyen, toute personne vivant dans ce pays doit défendre ses valeurs. Les États-Unis sont le seul pays dans lequel la liberté, on peut toucher par la main.
Quant à Romain Caboré, qui vient tout juste de prêter serment pour préserver les valeurs et les principes des États-Unis, il considère que bien avant ce jour, il s'est engagé à défendre le drapeau américain. Venu du Burkina, il sert aujourd'hui en tant que spécialiste en infanterie dans l'armée américaine.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Depuis un certain moment, déjà je pense que j'étais déjà américain. En juin, il y a l'armée. Pour moi, il n'y a pas un grand plus d'amour que de servir les États-Unis, particulièrement dans l'armée. Que de ne pas ricocher, avoir la nationalité. Yeah.
Kendrine Ellis est arrivée aux États-Unis de la Jamaïque il y a un peu plus de 10 ans. Son chemin vers la nationalité américaine n'a pas été facile. Sa détermination à poursuivre cet objectif la rend d'autant plus heureuse aujourd'hui.
Je suis très contente. J'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai eu des hauts et des bas, mais mon désir ardent de devenir américaine m'a poussée. Et je pense que maintenant, c'est le bon moment pour cela. Donc, je suis très heureuse. Je veux voter, mais comme je n'étais pas une citoyenne, je ne pouvais pas. Désormais, je peux voter.
Pour Mami Asegawa, une Japonaise vivant en Amérique depuis 25 ans, cette cérémonie de naturalisation marque la date anniversaire de son arrivée aux États-Unis. Un signe pour elle que chaque chose arrive en son temps.
Je vis ici depuis 25 ans et mon fils a grandi ici. Ce pays m'a donné tellement de possibilités. Et vous savez, j'ai construit ma vie ici. Donc je pense qu'il est temps de devenir américaine ce 1er juillet, le jour où je suis venue du Japon.
Pour toutes ces personnes devenues citoyens américains en cette occasion spéciale de la fête de l'indépendance, cette journée restera inoubliable.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.